Bonjour, aujourd'hui on va essayer de regarder d'un peu plus près ce qui se passe au Maroc. Il y a un chiffre qui saute aux yeux tout de suite, plus de 400 divorces par jour en 2024. C'est
Ah oui, c'est énorme.
interpelle. Oui. Et puis il y a cette expression Maroc à deux vitesses utilisée par Nizar Baraka, ça suggère qu'il y a vraiment des fossés importants dans le pays.
Tout à fait. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter un peu. On s'appuie sur pas mal de documents récents, des analyses, des chiffres officiels. Tout ça vient de la publication eWeek numéro 103. On a des infos du CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du HCP aussi, le Haut Commissariat au plan.
D'accord.
Et puis des échos d'événements très très concrets.
L'objectif, c'est donc d'aller voir un peu derrière les gros titres, hein, comprendre les transformations, les tensions sociales, les défis dans les villes, comment la famille évolue, ce que les jeunes attendent aussi, essayer de voir les liens, les nuances. Alors, commençons par ça, son Maroc à deux vitesses, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ce constat, il a été fait de manière assez directe, oui, par Nizar Baraka. Le chef du parti de l'Istiklal. C'était fin octobre 2025 à Casablanca. En gros, il dit que le modèle de développement actuel, il crée des inégalités très fortes, des fractures sur le territoire.
Et il se base sur quoi pour dire ça? J'imagine qu'il y a des exemples, des chiffres précis dans nos sources.
Ah oui, les chiffres sont assez frappants. Par exemple, la pauvreté multidimensionnelle, comme on dit. Elle toucherait 13,1% de la population en milieu rural, mais seulement 3% en ville. L'écart il est énorme. Ça montre bien cette séparation.
13 contre 3%. Ah oui, c'est un différentiel immense. Et ça se retrouve aussi dans la création de richesses, j'imagine.
Exactement. Les données montrent que trois régions côtières, seulement trois, elles produisent presque 60% du PIB du pays.
60%.
Voilà. Et pendant ce temps, vous avez 40% des Marocains qui vivent dans des zones qui, elles, ne contribuent qu'à 28% de cette richesse. Ça visualise bien le déséquilibre, quoi.
Et ce déséquilibre, on le voit aussi sur l'emploi. Les chiffres du deuxième trimestre 2025, ils disent quoi?
C'est la même logique, malheureusement. Sur cette période, 113 000 emplois créés en ville, mais dans le même temps, en zone rurale, on en a perdu 107 000.
Ah oui, carrément une perte.
C'est pas juste que ça stagne, c'est que les trajectoires divergent vraiment. Et ça, évidemment, ça a un impact direct sur l'accès aux services de base.
Comme l'eau potable, par exemple, ou
Ah,
Internet.
ça.
Aujourd'hui, c'est essentiel.
Absolument. Moins de la moitié des foyers ruraux auraient accès à l'eau via le réseau public. C'est quelque chose qui est quasiment partout en ville. Et pour Internet, pareil, c'est frappant. 22% des ménages ruraux seraient pas connectés, contre moins de 7% en ville. Donc ça crée des inégalités pour tout, l'info. L'éducation, même trouver du travail.
C'est ça. Et justement, l'éducation, les chiffres montrent le même fossé.
Un fossé très très net. Si on prend les plus de 25 ans, la durée moyenne de scolarité, c'est presque 8 ans en ville. Mais ça tombe à peine plus de 3 ans en milieu rural.
3 ans.
Oui. Et moins de 16% des ruraux de cet âge auraient le niveau collège, contre quasiment 47% en ville. Et l'analphabétisme en zone rurale, ça frôle les 38%. C'est pas juste des stats, hein. C'est des vies, des potentiels limités.
Ça dessine un tableau où, globalement, les inégalités augmentent. L'indice de Gini le montre, il a grimpé entre 2019 et 2022. Et là-dedans, les jeunes semblent particulièrement touchés.
Oui, le chômage des 15-24 ans, c'est autour de 36%. Mais Nizar Baraka insiste beaucoup sur le phénomène des NEET.
Les NEET, c'est quoi ça déjà?
Ce sont les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Not in education, employment or training, et il serait 1,5 million au Maroc.
1,5 million.
C'est énorme. Et parmi eux, presque 6 sur 10 vivent en zone rurale, et plus de 7 sur 10 sont des femmes. Ils parlent de bombe sociale potentielle.
On comprend l'inquiétude, ouais. 1,5 million de jeunes un peu hors système. Le message de Baraka, au fond, c'est qu'il faut absolument synchroniser tout ça, que les régions qui tirent aident les autres à suivre. C'est ça l'idée. Il a cette phrase assez forte, ce Maroc-là ne peut pas continuer. Il appelle vraiment à revoir les politiques pour plus de cohésion territoriale et sociale. Et ces déséquilibres économiques, ces fractures, j'imagine que ça met une pression énorme sur la société, jusque dans les familles, hein. Est-ce que ça pourrait expliquer, au moins en partie, ce qu'on voit sur l'évolution de la famille?
C'est une des pistes fortes, oui, que les analystes avancent dans les sources. Et c'est vrai que les chiffres sur les séparations, ils sont impressionnants. Ce fameux rapport 2024 du CSPJ, qui parle de plus de 400 divorces par jour.
C'est ce chiffre du début, oui. Mais les documents font une différence entre le divorce et autre chose, le tatlik, la dissolution. C'est quoi la différence et qu'est-ce que ça nous dit?
Alors, le divorce au sens strict, surtout celui par consentement mutuel, ça reste très important, hein. Environ 40 000 cas en 2024. Et 96% c'est par accord mutuel.
Ah oui, la grande majorité.
Voilà. Mais le CSPG note aussi une hausse importante, plus 33% des divorces décidés par le juge, sans accord des époux.
D'accord. Et le tatlik alors?
Là, les chiffres sont encore plus gros, plus de 100 000 cas. C'est énorme. C'est quoi exactement le tatlik?
Le tatlik, c'est une procédure de dissolution du mariage par le juge et effectivement, c'est presque 3 fois plus fréquent que le divorce. Dans la quasi-totalité des cas, 97%, c'est demandé pour discorde, pour désaccord conjugal. C'est ce qu'on appelle le chicac. Et pourquoi cette procédure de tatlik pour chicac, elle est autant utilisée? C'est juste que c'est plus simple administrativement?
Bon, la souplesse administrative, ça joue, c'est sûr. Pas besoin de notifier personnellement l'autre dans certains cas, plus de souplesse pour choisir le tribunal. Mais au-delà de ça, le fait que ce soit si fréquent, ça montre peut-être aussi une évolution des mentalités, non? Moins de tolérance face aux conflits qui durent, une envie de sortir de l'impasse, même si le divorce classique peut sembler plus compliqué ou plus mal vu pour certains. D'ailleurs, le HCP confirme la tendance, hein. Eux, ils comptent plus de 65 000 divorces enregistrés en 2024.
Et qui sont les personnes les plus touchées par ces séparations aujourd'hui? On a une idée du profil?
La tranche 45-49 ans reste la plus fréquente, surtout chez les femmes d'ailleurs, 68% des divorcés de cet âge. Mais ce qui est nouveau, et que les experts soulignaient, c'est que ça touche de plus en plus de couples mariés depuis longtemps. C'est plus seulement les jeunes mariages. Clairement, la séparation est moins taboue qu'avant.
Et comment on explique cette tendance de fond? Les sources donnent des pistes?
Oui, c'est souvent un mélange de facteurs qui est évoqué. Une transformation du rapport au couple, moins sacré, plus basé sur le bonheur personnel. Une recherche d'égalité plus forte entre hommes et femmes. Les pressions économiques, on en parlait, qui fragilisent les foyers. Et puis une affirmation plus nette des désirs individuels dans la relation.
Et face à ça, est-ce qu'on envisage des solutions? Le rapport du CSPJ propose des choses?
Oui, le CSPJ recommande de renforcer tout ce qui est médiation familiale, sociale, pour essayer de régler les conflits avant d'en arriver là. Il suggère aussi de mieux préparer les couples avant le mariage, et puis de développer le rôle des travailleurs sociaux dans les tribunaux pour accompagner les familles.
Ces changements très intimes dans la famille, ils se passent dans un contexte où il y a aussi des problèmes structurels très visibles et parfois dramatiques. Quand on parle de fractures, on pense aussi aux conditions de vie dans certaines villes.
Effectivement. Et la situation de l'habitat qui menace ruine dans les grandes villes comme Casablanca, c'est une illustration, oui, douloureuse de ces défis. L'effondrement récent d'un immeuble à Derbramad, dans l'ancienne Médina, c'est un rappel brutal.
Ah oui, cet immeuble de 4 étages qui s'écroulait, avec des morts et des blessés graves. Terrible, oui.
Deux morts, deux blessés graves. Et le pire, c'est que ça semblait prévisible, non? D'après les sources, le bâtiment était connu comme dangereux depuis très longtemps.
C'est ça. Un arrêté de péril avec ordre d'évacuer, ça datait de 2012. Les autorités avaient prévenu. La plupart des gens étaient partis, mais quelques familles refusaient de bouger. Faute de solution de relogement acceptable ou par attachement, malgré le danger évident. Bon, une enquête a été ouverte, bien sûr, mais ce drame, malheureusement, c'est pas un cas unique à Casa, surtout dans les vieux quartiers comme la Médina, Derb Omar. Est-ce que c'est juste une série d'accidents ou c'est vraiment un problème de fond? Les sources parlent vraiment d'un problème endémique, oui. C'est symptomatique de la vétusté d'une partie des logements et des difficultés qu'on a toujours avec la réhabilitation, le relogement. Malgré les plans annoncés, il y aurait encore des centaines, voire des milliers de familles qui vivent sous cette menace. C'est un cycle tragique. Effondrement, émotion, enquête, et toujours la question de l'efficacité des actions. La question qui reste, c'est: est-ce qu'il faut attendre d'autres drames pour agir de façon plus décisive? Face à ces réalités sociales, urbaines, parfois très dures, comment réagissent les gens? Surtout les jeunes, dont on dit qu'ils sont de plus en plus connectés, exigeants.
Justement, il y a une voix intéressante qui ressort des documents, c'est celle d'un collectif Gen Z 212, et leur réaction à l'annonce d'une grosse augmentation des budgets de l'éducation et de la santé pour 2026, elle est assez parlante. Ah oui, rappelons ça, après un conseil des ministres début octobre, on a annoncé un budget record, 140 milliards de dirhams pour ces deux secteurs. Alors, comment ce collectif de jeunes a réagi? Avec joie. Leur réaction est décrite comme une satisfaction prudente. Ils disent que c'est une première étape, une interaction positive avec ce que les citoyens demandent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient cette décision comme le résultat de la pression consciente et pacifique de la jeunesse et du peuple. En gros, ils se disent « c'est un peu grâce à nous ».
D'accord, donc ils saluent le geste, mais c'est pas un chèque en blanc, quoi.
Exactement.
Exactement. C'est pas une adhésion aveugle, loin de là. Ils lient leur satisfaction à des résultats concrets. Le collectif insiste, il faut des réformes profondes de la gouvernance dans ces secteurs, plus de transparence sur l'argent public et surtout des mécanismes pour vérifier que cet argent sert vraiment aux gens sur le terrain. C'est une position assez mature finalement, critique mais constructive. Ils veulent de l'efficacité, de la justice sociale et de la dignité, des thèmes qu'on entend souvent chez cette génération.
Tout à fait. Et cette demande de résultats concrets, ben, elle s'applique bien sûr à la santé. Et justement, dans ce domaine, il y a un autre défi, plus discret mais très inquiétant, qui semble monter et qui touche les plus jeunes. L'obésité infantile.
Ah oui, les sources disent que c'est une progression silencieuse mais alarmante. On est loin de l'image de l'enfant potelé, symbole de bonne santé. C'est quoi les chiffres ?
Les estimations du HCP, c'est qu'environ un enfant marocain sur 10 serait obèse aujourd'hui. Et plus d'un tiers en surpoids. C'est plus net en ville, mais les campagnes sont touchées aussi.
Et qu'est-ce qui explique cette montée en flèche ? J'imagine que c'est complexe.
Ah oui, c'est multifactoriel. D'abord, il y a l'alimentation qui a radicalement changé. Moins de fait maison, explosion des produits ultra transformés, la livraison à domicile facile, la pub partout. Il y a une citation assez parlante d'un nutritionniste scolaire dans les sources. Les enfants consomment en une journée plus de sucre que leurs grands-parents en une semaine.
Ah oui, quand même.
Et le mode de vie aussi, j'imagine. On bouge moins.
Indéniablement. La sédentarité grimpe. Le temps d'écran moyen pour les enfants, ça dépasserait les 4 heures par jour. Forcément, c'est au détriment de l'activité physique. Et puis, l'environnement lui-même pousse à ça. Le nombre de fast-food a explosé, plus de 1200 enseignes.
Et le marketing alimentaire est très agressif envers les enfants, sur tous les supports.
Avec des risques graves à long terme. Diabète, hypertension jeune et un poids énorme pour le système de santé. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Il y a des stratégies.
Alors, des réponses existent, mais elles sont décrites comme encore un peu dispersées, fragmentées. Il y a un projet pilote à Rabat et Casablanca, avec l'OMS, pour essayer de réguler la pub alimentaire pour les enfants. Mais bon, l'impact réel, faut voir.
Et sur le terrain, au niveau local, il y a des initiatives ?
Oui, et c'est peut-être là que ça bouge le plus concrètement pour l'instant. Les sources citent par exemple un programme « Bougeons ensemble » dans des écoles à Marrakech pour encourager 30 minutes d'activité par jour. Une coopérative à Agadir qui propose des paniers de légumes à prix réduit. Ou encore un label « Repas équilibré » testé dans des cantines à Casa. Ça montre bien qu'il n'y a pas une seule solution magique. Il faudrait vraiment une approche globale. Éducation nutritionnelle très tôt, réguler l'industrie et la pub, valoriser les produits locaux, le sport et impliquer les parents, les écoles.
C'est exactement ça. C'est un défi qui touche à tout. Nos habitudes, l'économie, les politiques publiques. Ça demande une réponse coordonnée et sur la durée.
Alors, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a vu, on a ce Maroc à deux vitesses, avec de fortes inégalités sociales, territoriales. On a la famille qui se transforme avec cette explosion des séparations. On voit les défis énormes de la ville, de l'habitat dangereux. Face à ça, une jeunesse qui demande des comptes, des résultats. Et puis ces nouveaux problèmes de santé publique qui pointent, comme l'obésité des enfants. C'est un tableau complexe d'un pays en plein mouvement.
Oui, et ce qui est frappant en lisant tout ça, c'est de voir comment tout est lié en fait. Le social, l'économique, l'urbain, la santé, tout s'influence. Alors, les réponses politiques fortes, comme les budgets annoncés pour l'éducation, la santé, c'est indispensable bien sûr. Mais ce que suggère l'analyse, c'est que la vigilance des citoyens, comme celle de Z212, et le dynamisme des initiatives locales, comme celle contre l'obésité, c'est tout aussi essentiel pour trouver un équilibre. C'est peut-être là, dans cette articulation entre le haut et le bas, que le Maroc peut essayer de naviguer entre le besoin de se moderniser et celui vital de garder une cohésion sociale.
Et peut-être une dernière pensée pour celles et ceux qui nous écoutent. Les documents qu'on a explorés dessinent un Maroc qui change vite avec des tensions bien réelles. Au-delà des chiffres, des constats, la question qui reste ouverte, c'est peut-être comment chacun, à son échelle, dans sa communauté, on peut contribuer à un développement qui soit à la fois un progrès, mais aussi plus harmonieux. Comment on arrive à concilier ce désir légitime d'une vie meilleure avec le besoin de renforcer ce qui nous lie face à tous ces défis ? Voilà, une interrogation qui mérite sans doute réflexion. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.